Uberisation, elle est au cœur de l'actualité aujourd'hui. Nouvelle manifestation des taxis contre la concurrence qu'ils jugent illégale des VTC. Et réflexion lancée sur le droit du travail, bousculé notamment par tous ces métiers liés à l'essor du numérique. Ce matin, regard sur l'ubérisation vue du côté de ceux qui travaillent. Quels sont les gagnants? Quels sont les perdants? Karim est chauffeur VTC depuis un an. C'est nettement moins doré que prévu, même s'il a une jolie voiture.
Les meilleurs moments, c'est quand je suis tout seul.
Pourquoi?
Parce que là, j'apprécie la voiture, le confort. Je mets la musique que je veux. C'est ça mon kiff. Parce que la plupart des clients, ils savent pas tous les problèmes qu'il y a. Voilà, on est toujours souriant, mais c'est une face cachée, tout ça. Quand je me suis mis dans le VTC, moi, j'ai cru que j'allais faire vraiment du luxe. On nous a promis l'Eldorado, mais au final, c'est pas de l'or qu'on est venu chercher, hein, c'est du sable.
Bonjour à tous, c'est un jour en France jusqu'à 11h. Plus de 10 000 chauffeurs VTC pour voitures de tourisme avec chauffeurs exercent aujourd'hui dans Paris, Uber, chauffeur privé, le cab, Hitch. Pour les clients, un vrai plus, moins cher, plus souple, plus rapide. Mais pour ceux qui conduisent la voiture, le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? Ubérisation de l'économie du côté de ceux qui travaillent, c'est notre sujet du jour. La nouvelle économie fait apparaître de nouveaux jobs, nouvelles opportunités, nouveaux statuts. Beaucoup d'indépendants, des portes ouvertes sur le marché de l'emploi qui n'existaient pas avant, mais aussi plus de précarité. Alors qui sont les gagnants? Qui sont les perdants? Y a-t-il là le gisement d'emploi promis par certains ou au contraire une menace que d'autres redoutent pour beaucoup de salariés dans des métiers traditionnels? Reportage d'Antoine Lee et en studio pour en parler Philippe Escande, co-auteur de Bienvenue dans le capitalisme 3.0 et Saya Baroun, secrétaire général du syndicat des chauffeurs privés et VTC, et nous attendons bien sûr vos interventions. Un temps de pochon cette semaine dans une école de forgerons. Mais pourquoi se lance-t-on dans ce type de métier?
J'ai toujours été proche du feu parce que lors des barbecues, tout ça, j'aimais bien gérer le feu. Mais c'est tout bête, mais ça commence. Et puis l'acier me fascinait, le fer me fascinait. Le fait que l'homme un jour a découvert un matériel qui a pu changer un petit peu tout notre histoire et qui a commencé à le travailler tout ça. Et je sais pas, je voulais peut-être faire partie un petit peu de l'histoire. Enfin voilà, reprendre un peu le truc, continuer.
Rendez-vous à 10h50, un jour en France. Violaine Ballet, Chantal Le Montagnier, Anne-Cécile Perrin et Annabelle Guilloré-Chotard. Toute l'équipe vous souhaite la bienvenue.
France Inter, un jour en France. Bruno Duvic.
Bonjour Saya Baroun.
Bonjour.
Fondateur et secrétaire général du syndicat des chauffeurs privés et VTC affilié à l'UNSA. 10 000 chauffeurs de VTC exercent aujourd'hui dans Paris. Pourquoi vous avez choisi ce métier?
Alors, je suis issu du métier du service puisque je faisais de la restauration à bord des trains. Donc, c'était plutôt une manière d'avoir une proximité avec la clientèle, garder un peu l'esprit voyageur et puis la qualité de service, quoi. Et puis, malheureusement, quand on rentre dedans, on découvre que c'est pas du tout ça.
C'était ma question suivante. Vous diriez, vous avez quoi, un an et demi d'expérience?
Un an et demi, oui.
Vous diriez que c'est un bon métier?
Ah oui, c'est un très bon métier, oui. C'est un très bon métier. Et c'est différent de celui du taxi puisqu'on est censé avoir une clientèle propre. Des clients qu'on va chercher, qui nous réservent à l'avance, etc. Donc il y a certes cette petite proximité qui fait que vous appréciez vos clients, vous avez envie de faire du bon boulot pour eux. Mais malheureusement, tout ce que nous proposent ces plateformes, ce ne sont pas nos clients, ce sont les leurs. Et puis c'est de l'enchaînement, donc il n'y a aucune relation de qualité là-dessus, quoi. C'est du taxi, quoi.
On détaillera tout cela dans l'émission. Bonjour Philippe Escande.
Bonjour.
Journaliste au Monde, co-auteur avec Sandrine Cassini de Bienvenue dans le capitalisme 3.0 chez Albin Michel. Premier constat, certains ont parlé de gisement d'emploi formidable avec la nouvelle économie, d'autres de jobs qui allaient mourir à foison. Le premier constat, c'est que le taux de chômage ne bouge pas.
Non, le taux de chômage ne bouge pas. La menace, elle existe et la promesse, elle est toujours là. Donc on bouge pas parce que pour l'instant, beaucoup des promesses ne peuvent pas se réaliser parce que, tout simplement, ces métiers ne peuvent pas s'exprimer ou soit sont interdits carrément, soit ont du mal à s'exprimer, comme dans le cas des VTC. On pourrait imaginer que s'il y a une libéralisation plus importante des VTC, ça va fragiliser certaines personnes certains acteurs en place, mais en revanche, ça va ouvrir des embauches pour beaucoup de gens. C'est une question différente de celle de la qualité du travail et de la menace qui pèse sur ce travail, évidemment.
À plein d'égards dans cette histoire, on est au milieu du guet, hein, on le verra avec vous en détail. Alors, est-ce que vous avez trouvé un emploi grâce à la nouvelle économie, livreur, chauffeur, indépendant, grâce à toutes les possibilités offertes par les applis, le web, etc. Dans quelles conditions travaillez-vous? Ou peut-être que vous redoutez que votre job soit menacé. En tout cas, nous vous attendons au standard 01 45 24 7000. Le courriel, c'est unjourenfrance@radiofrance.com et le mot-clé sur Twitter, c'est Jour en France. Et à 10h12 sur France Inter, Rokia Traoré, il est.
Alors je vous donne des couches et de la nourriture, d'accord?
Bruno Duvic.
Il mange du poulet?
Oui.
Sur France Inter.
Voilà.
À quoi ressemble la vie quotidienne, les conditions de travail d'un chauffeur VTC? Bonjour Antoine Lee.
Bonjour.
Antoine, vous avez suivi Karim, jeune homme de 26 ans qui s'est lancé dans le VTC depuis un an. Il a encaissé notamment donc la baisse des tarifs de 20% imposée par Uber, c'était au mois d'octobre.
Oui, il m'a invité à monter à bord de sa berline de luxe. Alors Karim, c'est le style beau gosse attitude, hein, belle chemise et beau costume. La panoplie chic et parfaite du chauffeur VTC. Alors son parcours, ce sont d'abord plusieurs années passées dans l'armée française, puis il a travaillé pour une fourrière. Un boulot qu'il n'aimait pas vraiment. Alors il faut dire que le salaire était un peu au-dessus du SMIC et surtout il se faisait souvent insulter par les automobilistes mécontents. Et en devenant VTC, il a vu l'occasion de gagner plus d'argent et de conduire une belle voiture. Mais aujourd'hui, il déchante un peu.
Alors on part en tournée avec lui à bord de la voiture.
Je me suis connecté avec Uber. Avec un peu de chance, ça va sonner. C'est frustrant. On se dit, j'espère que je vais avoir une course, une grosse course. Est-ce que je vais bien finir ma journée ou comment ça va se passer? On ne sait pas, c'est un gros point d'interrogation. Je donne toujours la meilleure prestation possible. Certes, avec la baisse des tarifs et tout, je leur mets plus de bouteilles d'eau ni de bonbons à disposition. Là où on peut économiser, on économise.
Vous économisez combien d'euros par mois?
Ouais, une centaine d'euros, 80 à 100 euros par mois. C'est pas négligeable, ben, ça me permet de les mettre dans le gasoil ou dans l'assurance.
Vous commencez votre journée à quelle heure?
4h30, je suis sur Paris.
À 4h30 du matin?
4h30 du matin, oui. Parce que j'ai pas envie de rater les courses à l'aéroport.
Et vous finissez à quelle heure?
Ben, je rentre à 20h, sinon je pousse encore jusqu'à 23h, minuit.
Combien de jours par semaine vous travaillez?
Pratiquement 7 sur 7.
Et quel est votre salaire mensuel en ce moment?
Je dépasse pas le SMIC. Entre les charges, le crédit de la bagnole, l'assurance, c'est impossible. Ça vaut pas le coup, mais j'ai pas le choix. Bah, tenez, ça sonne. Là, j'ai pris la RISA. Là, le GPS d'Uber s'est mis en place.
Et vous dit où vous devez récupérer le client, là?
Voilà.
La destination se trouve sur votre gauche. 75 016 Paris, France.
Bonjour, madame.
Bonjour, madame. Je me présente, je m'appelle Antoine Lee, je travaille à France Inter.
D'accord.
Et je fais un portage sur monsieur. Est-ce que ça vous gêne ou pas?
Pas du tout, donc il est rapide. On va en banlieue dans le 78.
Pourquoi vous prenez Uber, vous, madame?
Pour l'efficacité du service, c'est très rapide. Ils sont toujours agréables.
D'après vous, le métier de VTC, c'est un métier facile ou pas?
Je ne pense pas. Il faut toujours être de bonne humeur. Il y a quand même pas mal de routes, c'est fatigant pour la condition physique.
On a du mal à savoir si c'est une bonne chose. Ubérisation de la société.
C'est vrai que pour le client, il y a de très bons côtés, quoi. Cette baisse des prix et ce service qui est plus, quoi.
C'est bien beau l'ubérisation, mais travailler plus pour gagner moins, c'est sûr que le client, lui, ça l'arrange. Moi, le premier, hein, je préfère payer 20 euros au lieu de 40 euros, ben, je suis content.
Tournez à gauche sur rue Charles Tellier.
Allez, merci beaucoup et bon courage. Hein.
Merci, au revoir.
Au revoir. La course
a
coûté combien d'euros?
25 euros.
Combien vont dans votre poche?
13-14 euros. On a mis pratiquement 30 minutes. Il y a quoi, une vingtaine de kilomètres pour 15 euros. C'est pas rentable.
Tournez légèrement à gauche sur rue des Ponts.
On va où là maintenant, Karim?
Ben, on va chez moi.
Vous êtes marié? Vous avez des enfants?
Ben, je vais me marier au mois de mai. Avec le peu de salaire que j'arrive à me dégager, ben, déjà j'ai pas d'appartement.
Et vous vivez où alors, si vous avez pas de logement?
Je vais chez mes parents. Et madame, pareil, avait chez ses parents.
Future madame?
Future madame, oui.
Alors là, on rentre sur le parking, là.
C'est bien ça.
C'est un parking ouvert. Ça craint pas pour votre véhicule, là, qui est quand même une berline de luxe, là?
Je suis obligé de faire très attention. Parfois, je dis à mes petits frères de surveiller ou aux voisins. Par exemple, un pneu crevé, ben ça y est, la journée, elle est foutue. Et le mois, il est foutu. Si on rate une journée, c'est mort. Mon voisin, le taxi, là, ben, la dernière fois, il s'est fait voler ses jantes.
Oui, c'est vrai, là on est garé juste à côté d'une autre berline, mais cette fois-ci c'est un taxi G7.
Ça veut rien dire, c'est pas parce qu'il est taxi que c'est pas un ami.
Bah, c'était la guerre entre les taxis et les VTC.
Non, ça c'est un malentendu. Bah,
vous leur piquez un peu le boulot, hein.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut bien remplir le frigo. Bah allez, on va manger.
Alors, on va pour la pause déjeuner exceptionnelle, hein, la pause déjeuner en famille. Pour Karim, ça se passe chez ses parents à Garges-lès-Gonesse, Antoine, dans le Val-d'Oise.
Ouais, et pour ce déjeuner, Karim était entouré de sa mère et de sa sœur, des proches qui l'ont vu se transformer depuis qu'il est chauffeur VTC.
Ouais, c'est moi, ouvre la porte s'il te plaît.
La porte est ouverte. La porte est ouverte.
Bonjour.
La porte est ouverte.
Antoine.
Soraya.
Bonjour. Ah, à la maison, il y a votre maman. Là, il y a votre sœur qui est de passage avec les nièces.
Tu nous fais à manger, s'il te plaît, Ima.
Hey. Qu'est-ce que vous avez préparé?
C'est comme le couscous, c'est super bon.
On va se régaler, là.
Oui.
Vous le voyez souvent, votre fils, là?
Avec le travail, on le voit moins. Ouais. Je trouve ça un peu dommage parce qu'on le voit plus, travaille matin et nuit.
Les fêtes de fin d'année, il les a pas passées avec nous parce que comme il y a du monde qui est sorti, surtout jour de l'an, bah il a préféré travailler que de rester avec nous pour fêter le nouvel an, etc. Noël, pareil.
Là encore, il a repris quelques kilos parce qu'il commence à reprendre le sport. Mais vous l'aurez vu il y a 2 semaines, il ressemblait à un cadavre, il nous faisait peur.
Vous avez perdu combien de kilos depuis que vous faites VTC?
J'ai perdu 20 kilos.
Ça se voit qu'il y a un problème, mais ça va pas. Ton fils, quand il est dans la merde quand même, on s'inquiète beaucoup.
On lui dit tout le temps qu'est-ce qu'il y a, mais lui, comme il parle plus, et nous, on s'inquiète avec ma fille, on parle toujours ensemble, on doit faire quelque chose. C'est pas normal qu'il est comme ça.
Je leur raconte pas trop mes problèmes que j'ai, pour pas qu'ils s'inquiètent, mais ça se voit. Ça se voit.
Pour moi, chauffeur VTC, c'est bien. Mais après, il faut le développer, quoi. Est-ce que c'est vraiment un métier d'avenir ou pas?
Si ça évolue pas, j'arrête. D'ici 6 mois, allez, maximum 1 an. S'il n'y a pas d'évolution, ben je vais reprendre mon ancien travail.
À la fourrière?
Oui, à la fourrière. Comme ça, au moins, j'aurai mes horaires. Je sais qu'à telle heure, je vais rentrer à la maison.
Ce sera avec regret?
Oui, un peu avec regret, voilà. Parce que voilà, on s'est dit, on s'est investi, on s'est donné tant de mal, mais finalement, pour rien, quoi.
Qu'est-ce qu'on fait?
Ben là, on va partir.
On va retourner au boulot?
Voilà. On laisse un peu la famille de côté et rebelote.
C'est la vie.
Voilà. Bon courage. Hein.
Bon courage.
Et sur France Inter, nous sommes toujours avec Saya Baroun, secrétaire générale du syndicat des chauffeurs privés et VTC, et Philippe Escande, journaliste au Monde et co-auteur de Bienvenue dans le capitalisme 3.0. Ce qu'on vient d'entendre, Saya Baroun, c'est à l'image de ce que vous vivez, de ce que vivent la plupart des chauffeurs VTC?
Tout à fait, ouais. C'est comme ça qu'ils vivent au quotidien, malheureusement. Ils se sentent plutôt piégés, quoi.
Vous disiez tout à l'heure, c'est un bon métier, et on comprend que vous aimez ce métier, et en même temps, que ce soit au micro ou hors micro, on sent beaucoup d'amertume chez vous. Pourquoi?
Parce que le métier a été dénaturé, qu'à la base, les anciens VTC, les vrais, ceux qui sont comme nous, qui ont leur propre clientèle, c'est un super beau boulot. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez chercher vos propres clients, des gens avec qui vous avez plaisir à voyager, avec des bonnes discussions. Là, c'est vous attendez qu'on vous envoie un client qui n'est pas à vous. Et c'est du taxi déguisé. Ça n'a rien à voir. Le taxi et le VTC, en théorie, ça n'a rien à voir. Mmh. C'est une fidélisation du clientèle que vous prenez régulièrement, alors que le taxi, c'est tous les jours des nouveaux clients. Donc le rapport, il est différent.
Et c'est une indépendance aussi. En tout cas, on sent que beaucoup de chauffeurs VTC cherchaient cette indépendance. Mais de fait, c'est une fausse indépendance. On est tout à fait dépendant des plateformes qui jouent les intermédiaires.
C'est une indépendance fictive. Alors, l'ubérisation, quand elle s'insère dans un secteur, c'est toujours en disant l'indépendance. Ouais. Mais vu qu'ils connaissent vos chiffres, ils feront jamais quelque chose pour que vous puissiez gagner votre vie correctement. Ils sont là, ils maîtrisent tout, ils savent tout ce qui se passe. Donc ce sera toujours dans leur intérêt. Et là, on sait très bien que c'est du salariat parfaitement déguisé, mais c'est tellement parfaitement déguisé que ça va être compliqué de se battre là-dessus. Mais ils ont aucune échappatoire. Là, le petit jeune, pour fermer, il lui faudra beaucoup d'argent, parce que ça coûte de l'argent de fermer une société. Donc il va bosser peut-être un mois gratuit pour pouvoir fermer la société, et derrière, il n'y a pas de chômage. Donc il est condamné, c'est du roule ou crève. Et là-dedans, il n'y a aucun syndicat, il n'y a aucune convention collective, il n'y a aucun accord, il n'y a rien du tout. Et ce genre de partenariat avec Uber ou chauffeur privé ou autre, c'est dans un sens.
Deux choses, Philippe Escande. D'abord, peut-être dire que, notamment, ces jobs de VTC, ils ont ouvert des portes sur le marché de l'emploi à beaucoup de gens qui ne pouvaient pas accéder par ailleurs au marché de l'emploi, pour employer l'expression consacrée. Beaucoup de gens issus de la diversité qui ne trouvaient pas de job et qui ont trouvé là, au moins, voilà, une porte d'entrée.
Oui, alors ça, c'est dans le domaine des taxis, c'est pas tout, enfin du transport de personnes, oui. Et donc des taxis, c'est finalement pas si nouveau. Ça a été, ça a été historiquement toujours une voie d'intégration. Hein. On se souvient des chauffeurs russes au début du XXe siècle, et donc c'est assez naturel parce que c'est un métier qui est relativement facilement accessible. Oui. Alors celui de taxi est également, il y a beaucoup de gens de la diversité chez les taxis, mais c'est un métier qui est très très réglementé, puisque le nombre de licences n'a pas augmenté pratiquement depuis 60 ans. Hein. Donc, du coup, il y a une pénurie qui s'est installée. Et aujourd'hui, il y a cette possibilité, grâce à la technologie, le numérique, les plateformes, d'ouvrir cette profession qui existait déjà, qui était celle des VTC, mais de l'ouvrir à un public beaucoup plus large. Et évidemment, plein de gens se sont engouffrés là-dedans. Alors, ça pose comme problème, d'une part, on assiste finalement à une nouvelle forme d'exploitation, assez similaire à ce qui s'était passé au 19e siècle, quand les grandes entreprises sont arrivées avec les usines et qu'on n'avait pas encore inventé le salariat moderne et la protection sociale. Donc finalement, il y a un nouveau statut qui arrive et qui n'a pas encore de justification réglementaire, d'encadrement. Donc c'est extrêmement difficile. Et puis en plus, c'est un nouveau marché qui s'ouvre. Et donc, il faut qu'il s'adapte. C'est-à-dire qu'il y a probablement beaucoup de gens qui vont faire chauffeur. Et puis, il n'y aura pas assez de boulot pour tout le monde. Donc, il y en a qui vont se retirer. Et progressivement, on espère, un équilibre devrait s'instaurer. Mais il faut aussi qu'il y ait un équilibre. Et c'est vrai que Saïa Baroun l'explique bien. Et il faut qu'il y ait un équilibre aussi qui s'instaure entre le travailleur et son employeur. Oui. Même si c'est un employeur de type Uber et autres. Et donc, il faut des syndicats, il faut un rapport de force qui doit s'installer.
Parce que c'est une chose sur laquelle vous insistez, pas seulement pour les chauffeurs d'ailleurs dans le livre, c'est que au fond, ce rêve d'indépendance qui est à l'origine de beaucoup de jobs dans la nouvelle économie, c'est souvent un rêve un peu factice et dans les faits, c'est un salariat parce qu'on dépend d'un gros donneur d'ordre, d'une grosse entreprise.
Oui, alors le problème, c'est que le travail indépendant, c'est pas mauvais en soi.
Bien sûr.
Le problème, c'est que le travail indépendant, la société n'est pas organisée autour du travail indépendant. Depuis tout le XXe siècle, hein, on a construit la société autour du salariat. Et le salariat, c'est finalement, je signe un contrat et je vends mon temps contre une protection. Une protection ouais. Santé, retraite, protection sociale, et puis évidemment contre le chômage. Ouais. Le travail indépendant, il a pas tout ça. Et donc, il y a un problème aujourd'hui, c'est qu'on a des structures très légères qui arrivent, c'est les nouvelles plateformes, ouais. Qu'elles soient étrangères ou qu'elles soient françaises, comme l'américain Uber. Et du coup, ces plateformes, elles se développent très vite parce que justement, elles s'appuient sur
à
la fois sur un vide juridique, mais aussi sur la possibilité de faire travailler les indépendants. Et pour eux, c'est pas juste pour exploiter les gens et une tare, c'est que on va beaucoup plus vite si on travaille avec des indépendants que s'il fallait effectivement s'installer et puis embaucher des gens, etc. Uber mettrait 50 ans pour arriver là où il en est aujourd'hui. 2009, Uber n'existait pas. Aujourd'hui, il y a près d'un million de chauffeurs.
Au standard d'un jour en France, Philippe. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour, merci de prendre mon appel.
Je vous en prie.
J'essaie d'être bref.
Voilà. Ouais, alors vous avez été ouais. Taxi, puis chauffeur VTC et vous êtes revenu au taxi.
Tout à fait monsieur, voilà, tout à fait.
Expliquez-nous pourquoi.
Parce que déjà, bon, la première chose, quand j'ai quitté le taxi, j'avais un très très bon client qui me gardait 3 jours par semaine. Voilà.
Ouais.
Et donc on m'a dit que les verbes en plus, avec les éloges qu'on fait de l'extérieur, on croyait que c'était meilleur.
Ouais.
Et au bout, donc, ce client, j'ai gardé quand même pendant 6 mois, et ce client m'apportait quand même une recette convenable pendant 3 jours par semaine. Donc, j'étais avec mon statut d'auto-entrepreneur, je gagnais ma vie à peu près correctement, grâce à ce client qui n'était pas venu d'une plateforme numérique.
Ouais.
Et je l'ai perdu. Bon, c'est, vous savez, comme tout, un jour vous plaisez, demain vous plaisez plus. C'était mon cas. Ça, c'est encore une autre histoire. Donc, de là, je suis passé à prendre 4 applications. Monsieur, je n'ai pas une, mais à qui j'ai travaillé. Je vais faire l'éloge, la publicité. J'ai pris Uber, j'ai pris Allocab, j'ai pris Snapcar et j'ai pris chauffeur privé. J'avais 4 téléphones dans ma voiture.
Rien que ça.
4 téléphones, monsieur. Je dis bien 4 téléphones. J'en pleure aujourd'hui. J'ai mal, monsieur. J'ai mal en vous parlant. J'ai mal. J'ai travaillé, monsieur. J'ai travaillé 20 heures par jour. J'ai travaillé. Et je ne galère pas. La précarité. Quand je m'en sortais pas. Je ne m'en sortais. D'abord, pourquoi aujourd'hui je suis venu en taxi? Ce n'est pas mieux. C'est pas l'éloge. Vous savez, c'est pas non plus, ne croyons pas que de l'autre côté c'est mieux, mais c'est déjà un petit peu mieux. Mais travailler pour ces plateformes, dire que on est noté, monsieur, parce que il suffit que aujourd'hui il n'y a qu'à voir. On parle de communication. Moi, j'adore communiquer. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je suis déjà intervenu sur France Bleu. Donc, quand on me dit que le taxi n'est pas quelqu'un de communicant, mais vous savez, je défiais tout le monde. Partout, quel que soit l'endroit où vous allez, il y a des gens bien et des gens pas bien partout. Bon, c'est pas non plus, vous savez, comme partout.
Mais quelle différence? En quoi voilà. C'est plus précaire d'être chauffeur de voiture de tourisme que taxi? En quoi c'est plus précaire?
Parce que déjà, monsieur, quand vous avez la chance de monter à l'aéroport et que vous redescendez à Paris, matin, là, le taxi peut attendre. Bon, malgré qu'en ce moment, il y a moins de monde dans les avions, mais le taxi, quand il y a des salons, peut attendre dans le parc, hein. Quand il s'agit, vous touchez 40 euros pour descendre à Roissy, le centre de Paris, et qu'il faut remonter à Paris pour retrouver un client. Monsieur, vous me dites combien j'ai gagné si j'ai pris 3 heures? Qu'est-ce que j'ai gagné?
Dites-moi.
Dites-moi qu'est-ce qui me reste dans ma poche.
Et alors, la réponse, c'est quoi?
Zéro. Clairement, zéro. Zéro. Entre le carburant, entre les 20% que j'ai Uber et mon temps et mes charges, je dois zéro. Il ne me reste rien.
Merci pour ce témoignage, Philippe. Ça fait beaucoup de témoignages très, très, très négatifs ce matin, Saïa Baroun.
Ah, mais tout est négatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces plateformes-là se sont lancées en France par rapport au manque qu'il y avait au niveau des taxis. Donc c'était au départ une belle initiative. Tout le monde était époustouflé par la technologie. mais ils auraient dû rester sur un tout petit marché. Aujourd'hui, ces applications sont en train de racoler même au niveau de l'État en disant « ouvrez-nous le marché, ouvrez-nous les vannes de formation VTC, on va enlever beaucoup de chômage », mais en fait, simplement, ils s'attaquent au marché du taxi. Ils auraient dû rester sur une petite part du gâteau, qui est la qualité de service, ce que faisaient les premières plateformes, mais ensuite ils sont descendus sur Uberpop, etc., pour manger le marché du taxi. Clairement, c'est du cannibalisme pour attaquer le taxi, prendre sa clientèle.
Vu que c'est la technologie, vous, d'un syndicat de chauffeurs et de VTC, qui le dites.
Ah oui, non, mais clairement, ils sont en train de paupériser le taxi et nous-mêmes par la même occasion. Ensuite, là, je ne sais pas si vous avez vu, on a été au ministère récemment par rapport à la formation VTC. Donc, nous, on a demandé, comme les taxis, avoir deux sessions d'examen par an, très qualifiantes. En théorie, on est censé être plus qualifié quand même que les taxis. Et les plateformes de mise en relation ont demandé une session d'examen par semaine pour pouvoir avoir de la chair à canon, etc. Récemment, ils ont envoyé un courrier à Hollande pour dire « ouvrez-nous les vannes, on va enlever beaucoup de chômage ». Ce sont des fausses promesses. Aujourd'hui, on est beaucoup plus de 20 000 VTC, hein, confondus avec les lotis et tout ça. Beaucoup plus de 20 000, donc, c'est-à-dire le nombre de taxis a doublé. Plus 10 000 chauffeurs Hitch, quand vous regardez la carte de Hitch.
C'est la dernière application à la mode, notamment pour ceux qui sortent le soir.
Totalement illégale avec des particuliers, malheureusement. On ne voit plus la carte de Paris. Donc, on est plus de 50, 60 000 sur Paris. Donc, ça suffit maintenant l'histoire de dire qu'il n'y a plus de taxis suffisamment. Et il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc, c'est une guerre qui se mène. Aujourd'hui, la plupart des chauffeurs VTC commencent à le comprendre. Ceux qui travaillent pour Uber sont dans l'illégalité, à savoir la maraude. Ouais. Et c'est vraiment un maraude job précaire. Et ils s'en sortent plutôt bien au niveau de leur technologie qu'ils essaient de vendre avec l'indépendance fictive à la clé. Quoi.
Alors, ubérisation de la société et des métiers, il y a des nouveaux métiers qui se développent ou qui se redéveloppent, celui de livreur, par exemple, Antoine Lee, livreur de repas à vélo notamment.
Oui, on les voit de plus en plus dans les grandes villes. Alors, ces coursiers à vélo sont facilement repérables hein, grâce à leur gros sac rigide sur le dos. Alors, ce concept cartonne déjà aux États-Unis et en Angleterre. C'est arrivé en France il y a moins d'un an. Alors, Augustin Lemercier s'est lancé dedans il y a 8 mois. Alors, il a le statut d'auto entrepreneur, muni de son vélo personnel. Il travaille notamment pour la société Deliveroo. C'est l'une des sociétés qui fait l'intermédiaire entre ses coursiers et les restaurateurs, comme Pierre-Emmanuel Vergniaud. C'est le chef du 71 PM, un restaurant situé à Boulogne-Billancourt.
Aujourd'hui, on va avoir en entrée un petit œuf poché au potiron, un carpaccio de haddock, une petite bavette aux échalotes gratin dauphinois, et en dessert, des petits sablés à la mangue et des clémentines aux épices.
Vous, pourquoi vous avez fait appel à ce service alors ?
Ça va rapporter plus de clients, ça leur permet de nous leur faire découvrir la cuisine et après, souvent, ils viennent directement déjeuner ou dîner chez nous.
Il y a le coursier qui arrive. Bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui venez récupérer la commande alors ?
Ah oui, ouais.
Expliquez-moi, vous, comment vous avez été prévenu alors ? Comment ça se passe ?
On est géolocalisé par Deliveroo. On reçoit une notification sur notre portable pour nous dire d'aller dans le restaurant. C'est vraiment très facile.
Vous avez quel âge ?
Moi, j'ai 26 ans. Je suis étudiant à côté et ça me permet de pouvoir combiner mes études et pouvoir gagner un peu d'argent.
Là, il y a le chef qui nous fait signe avec un sac, là. Je vais vous confier mon micro, mon magnétophone.
Ouais.
Et moi, je vous suis en scooter.
Okay.
Parce que je n'ai pas la même forme que vous, moi.
Ok, d'accord. Allez, c'est parti. C'est ça ce que j'aime aussi dans ce boulot, c'est quand le vélo, c'est sa passion. C'est vraiment une chance, je pense. Bon, faut faire attention quand même aux voitures et aux gens, mais c'est très sympa. Donc, c'est ici.
Quel est votre salaire pour combien d'heures de travail par semaine ?
Par semaine, je fais à peu près 22 heures et je gagne entre 800 et 1200 euros par mois. J'ai un fixe de l'heure et je suis payé aussi à la course. Ça permet, en tant qu'étudiant, ça permet de pouvoir... avoir l'emploi du temps qu'on désire, vraiment.
C'est un peu précaire, non, comme travail ?
Bah, après, si vous considérez que pouvoir gagner le double du SMIC en tant qu'étudiant, c'est précaire, peut-être, oui. Parce que je gagne le double de mes camarades de classe qui, eux, travaillent dans des fast-food ou en tant que serveur ou des choses comme ça. Bonjour, madame, c'est le livreur Deliveroo.
Je vous ouvre, monsieur.
Bonjour, madame.
Entrez.
Et voilà.
Vous allez me poser sur ma table,
vous voulez
bien.
Voilà.
Quel est votre prénom ?
Chantal.
Pourquoi vous avez fait appel à ce service-là, madame ?
C'est une nièce qui m'avait déposé l'application. Comme j'ai une vie spartiate, j'ai rien dans mon frigo, mais franchement rien. Comme je bosse, je ne vais pas sortir au resto ni rien, puis ça fait un peu tartignole, alors que là, bon, bah, je continue à bosser, puis je vais manger.
Ah bah sympa, madame vous donne un pourboire.
Merci beaucoup madame, c'est très gentil.
Bah, je vous en prie.
Un bon pourboire en plus, hein. Ouais. On peut dire le chiffre, hein, 5 euros. Un billet de 5 euros, c'est un très bon pourboire.
Parce que les pièces, ça fait rikiki, ça fait rare. Alors qu'un billet, ça a un peu plus d'allure. Peut-être que s'il y avait des billets de 2 euros, je vous aurais filé un billet à 2 euros.
Bon appétit, madame.
Merci.
Au revoir, bon appétit.
Voilà un autre exemple de métier qui se développe sous l'influence des applis, des sites internet. Philippe Escande, on a brossé un tableau très noir jusque-là de tout cela. Il y a des gagnants dans ce nouveau système.
Ah bah bien sûr, d'abord les premiers gagnants sont les consommateurs. Hein. Si on reste dans le domaine des transports, aujourd'hui il y a à peu près, alors en dehors des chiffres récents que donnait Saïa tout à l'heure, mais jusqu'à une époque récente, en tout cas, il y avait à peu près 3-4 fois moins de taxis et VTC à Paris qu'à Londres ou New York, des exemples. Et comme par hasard, dans ces villes-là, les gens prennent en moyenne 3 fois plus le taxi qu'à Paris. Donc il y a un marché potentiel et c'est ça que ça a réveillé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ça l'a réveillé non pas par le prix, puisque c'est à peu près les mêmes prix de course en ville avec des plateformes qu'avec des taxis.
Oui, finalement, mais, ça n'est pas si différent.
Voilà, mais le service. Mmh. Et le premier des services, c'est pas la bouteille d'eau ni la cravate. Le premier des services, c'est de pouvoir commander très facilement, d'avoir une application qui est extrêmement pratique, de voir son chauffeur arriver très rapidement. Hein. Comme le disait la dame dans le reportage, c'est la rapidité et puis effectivement d'avoir un service de qualité. Donc ça, ça fait énormément de gagnants et le principe de cette révolution numérique, c'est justement, elle s'appuie non pas sur les producteurs mais sur les consommateurs et sur la multitude des consommateurs.
Et elle développe des marchés.
Et elle développe des marchés en partant de là. Ensuite, les autres gagnants, c'est évidemment ceux qui ne sont pas dans le marché du travail. Hein. Chez les jeunes, il y a dans les banlieues à peu près 50% des gens qui n'ont pas de travail. Donc ça ouvre des possibilités. Hein. Nonobstant effectivement tous les problèmes
toutes
que
les
ça crée,
posées,
les limites qu'on a posées de précarisation et autres. Et puis le dernier segment, c'est évidemment la création d'entreprises. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec Internet notamment, créer son entreprise, c'est extrêmement simple. Et on peut développer, vous voyez l'exemple de la livraison, hein, c'est typique. C'est-à-dire qu'on peut créer, imaginer des nouveaux marchés et puis voir si ça fonctionne auprès des, si ça prend auprès des consommateurs. Et donc ça crée aussi un nouvel appel d'air. Finalement, c'est cette révolution numérique, pour l'instant en tout cas, ce qu'elle crée, c'est une espèce de polarisation. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a les bénéficiaires, ils sont un petit peu au deux bouts de l'échelle, c'est-à-dire tout en haut avec les gens qui créent des entreprises, qui développent et qui souvent, par exemple, sont très très bons en informatique, etc. Donc avec des compétences très particulières. Et puis tout en bas, c'est tous les gens qui sont exclus du travail
et ça
leur donne une possibilité d'y rentrer.
Et en même temps, pour les salariés, le regard, disons, à moyen terme, c'est que les salariés qualifiés technophiles, scientifiques, tout cela, cette révolution numérique va leur profiter. Les salariés moins qualifiés, ce sera beaucoup plus compliqué.
Ah ben, ça sera beaucoup plus compliqué, d'autant que la révolution numérique, elle se manifeste aussi par l'automatisation de toute une série de tâches intellectuelles. Hein, qui sont en général prises par les employés, mais c'est en train de monter, c'est-à-dire que évidemment un ordinateur peut faire le comptable, mais demain un ordinateur peut faire aussi un travail d'avocat, peut faire un travail de journaliste,
ça existe
déjà. Et donc il y a une espèce de reclassification comme ça qui est en train de s'opérer et qui évidemment est compliqué à vivre pour la grande masse, notamment ce qu'on appelle la classe moyenne.
Ouais.
Ça se voit aux États-Unis, ça se voit en France, ça se voit partout. Qui est bousculé par cette irruption et pour l'instant on n'a pas encore les institutions qui permettraient d'absorber et finalement de repartir sur un cycle de croissance avec une classe moyenne qui en soit le socle.
Quelle piste pour encadrer ? On parlait tout à l'heure, Philippe Escande, des indépendants qui sont potentiellement dans une situation de précarité. On sait qu'en ce moment, on est en train de réécrire le code du travail. Quelle piste pour mieux intégrer ces gens-là qui puissent cotiser pour eux et pour le reste de la société, au fond ?
Oui, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut absolument inventer un système de protection pour les auto-entrepreneurs au sens large, voilà. tous les gens qui démarrent et qui sont indépendants. Donc dans le domaine de la santé, ça commence à s'imaginer. En revanche, il n'y a pas grand-chose du côté du chômage, c'est-à-dire assurer la perte d'activité. Je suis chauffeur pour Uber, c'est presque effectivement, comme on disait, un quasi-salariat ou pas. Je suis indépendant, mais si d'un coup j'ai une perte d'activité, je peux le démontrer, eh bien, je dois avoir une protection sociale. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, quand on est entrepreneur. Et ce genre de système, ils existent. Hein, on l'a inventé, par exemple, pour les comédiens. Ça s'appelle les intermittents du spectacle. On l'a un peu inventé pour les journalistes. Ça s'appelle les pigistes. Donc, il y a certaines professions ont mis en place des structures comme ça. Mais là, c'est à une échelle beaucoup plus importante qu'il faut imaginer des systèmes de protection des indépendants qui les sécurisent et qui les lâchent pas dans la précarité qu'on a évoquée tout à l'heure.
Saïa Baroun, si vous avez un pépin de santé, il se passe quoi?
Rien du tout. Vous comptez sur vous-même. Surtout les auto-entrepreneurs qui sont au RSI. On ne va pas refaire l'histoire sur le RSI. Beaucoup de gens manifestent contre ça. C'est une catastrophe, le RSI. C'est quelque chose à fuir. Donc là, ce petit jeune-là, s'il tombe en vélo, il se casse la jambe.
Régime social des indépendants, RSI.
Exactement. Ouais. Si là, il se casse la jambe, il tombe, il se débrouille. Je vais donner un exemple d'une dame que j'ai récupérée en tant que cliente que je fais régulièrement. Alors, elle est sur la région de Lyon. Et a travaillé pour une compagnie d'assurance. Donc c'était le SMIC plus 3% de prime en fonction des contrats qu'elle négociait. Et ils ont décidé à plusieurs de se mettre en tant qu'indépendants et de travailler pour plus d'une dizaine d'assurances différentes. Et chaque contrat qu'ils négociaient, ils touchaient 20% sur le contrat. Donc c'était beau. En discutant, elle me disait « je suis indépendante, c'est magnifique, etc. » Je lui dis « mais sans indiscrétion, vous touchez combien ?» Elle me dit « je tourne pas loin de 3000 euros par mois. Mais au moins, même si je fais 70 heures par semaine, donc il n'y a rien d'énorme, hein, 70 heures par semaine pour 3000 euros par mois, c'est pas énorme.
J'aime le petit air de provocation quand vous dites il n'y a rien d'énorme.
Non, mais c'est pas. 35 heures, 1500 euros, 70 heures, 3000 euros. Mais elle me dit au moins j'arrive à gérer au niveau de mes enfants, etc. Et je lui dis mais tous ces assureurs-là de plus d'une dizaine, vous êtes combien à travailler pour eux en tant qu'indépendant? Elle me dit on doit être 15, 16. Je lui dis mais qu'est-ce qui leur empêche de faire comme Uber ou le Cab, de passer des annonces même sur Internet ou Le Bon Coin, dire devenez chauffeur VTC, enfin devenez courtier en assurance et gagnez 6000 euros par mois, ce qui est totalement faux, et qu'à la fin vous soyez plus une douzaine dans la région de Lyon, mais 150. Mmh. Et là, ce genre de patrons viendront vous dire, bah, c'est fini maintenant la commission de 20%, je vous passe à 8%. Vous êtes content, tant mieux, vous n'êtes pas content, vous pouvez crever. Est-ce que vous avez un syndicat? Est-ce que vous avez une convention collective? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous protège de ce genre de requins? Parce qu'ils ne sont pas là pour faire du social. Ils sont là pour détruire et se faire un maximum de pognon. Et là, c'est ce qu'on rencontre avec ce genre de plateforme. C'est qu'ils sont prêts même à mentir au gouvernement. Là, la promesse qu'ils font depuis quelques temps, c'est « ouvrez-nous les vannes, on va enlever du chômage ». Malheureusement, le gouvernement, il est très sensible à ça. Et il se dit « c'est vrai », mais chose qui est totalement faux. Ça ne changera pas.
Alors, il y a beaucoup d'interventions au standard sur la question de taxi, VTC, même si on voulait un peu élargir la question. Mais Eric, vous êtes le bienvenu au standard d'un jour en France. Bonjour Eric.
Oui, bonjour.
Vous voulez attendre au fond, insister au fond sur la dimension service pour le consommateur. Ben voilà, il y a quand même un service supplémentaire.
Tout à fait. Moi, il m'est arrivé très rapidement, Place de la Madeleine à Paris, qui est quand même un lieu assez fréquenté, aussi bien touristiquement que par les Parisiens, d'être obligé d'attendre un taxi à la station et d'avoir attendu trois quarts d'heure sans taxi, d'avoir vu un taxi arriver en fin de station, se garer, aller manger tranquillement et boire un coup, une demi-heure après revenir sur la station, toujours pas de taxi, donc j'ai à peu près attendu une heure et quart, et furieux parce que le taxi en question a mis son compteur en route et est parti en me laissant comme un imbécile sur la station. Donc du coup, furieux, j'ai pris mon téléphone portable, j'ai ouvert un compte et j'ai en 5 minutes ouvert le compte, scanné ma carte bleue et pu demander un VTC. 7 minutes plus tard, j'avais un VTC qui me prenait Place de la Madeleine avec un petit peu d'eau, un grand sourire, une belle voiture et qui m'a posé à l'endroit où je voulais, qui m'a fait sortir en toute sécurité de son véhicule. Alors je voudrais dire... il y a effectivement beaucoup de sujets qui peuvent être abordés là-dessus, mais je pense que les taxis devraient aussi beaucoup se poser la question, quel est leur rôle dans la société, qu'est-ce qu'ils font et comment font-ils leur métier.
Philippe,
c'est juste le petit témoignage que je voulais apporter.
Merci.
Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près un peu moins d'un an.
Merci. Philippe Escande, ce que vous racontez dans le livre, c'est voilà notre plongée à nous tous dans cette nouvelle société-là. Et ce genre d'argument-là, c'est imparable, quel que soit ce qu'on a pu dire auparavant.
Ah oui, on peut dire en raccourci que le smartphone, c'est la revanche du consommateur.
Oui. Hein.
C'est-à-dire que on a aujourd'hui des outils et il y a des gens qui offrent ces services qui donnent un accès et une efficacité à ce qu'on peut faire qui est sans commune mesure. Et effectivement, l'exemple des taxis est emblématique. C'est pour ça qu'on a inventé le terme de
d'ubérisation.
Mais ça se produit dans énormément de domaines. Dans un domaine relativement proche, vous avez Blablacar, par exemple, qui aujourd'hui concurrence la SNCF carrément, puisque ce sont du covoiturage, des systèmes comme Airbnb, mais également, vous en parliez, ce qu'on appelle la plateformisation de la société, c'est-à-dire l'arrivée de ces plateformes en tous sens, qui sont en train de s'imposer, ça va toucher à peu près tous les domaines, et à chaque fois avec des frictions, évidemment, qui se passent. On a vu ce qui s'est passé pour les auto-écoles, par exemple.
Oui. Là, quand il y a consacré une émission.
Voilà, il y en a qui souffrent sur les conseils juridiques, sans parler de l'hôtellerie, par exemple, avec Booking.com. Booking.com, c'est pour le vu du consommateur, c'est extrêmement pratique. On a tout d'un coup l'offre du monde entier, tous les hôtels du monde entier. Bon, ça pose des problèmes aux hôteliers parce que justement, on leur prélève une commission et ils deviennent dépendants de cette plateforme.
Merci à tous les deux d'être venus ce matin au micro de France Inter, Saïa Baroun et Philippe Escande, co-auteur avec Sandrine Cassini de ce livre « Bienvenue dans le capitalisme 3.0 » qui porte un regard plus large que celui qu'on a porté ce matin, vraiment sur les changements de société impliqués par ces nouvelles technologies. 10h48.